Bonjour à toutes, bonjour à tous, nous sommes en direct, il est 13h30 sur le 88.8 de Radio Grenouille, bien évidemment. Toute la semaine, vous avez pu entendre des programmes produits par la rédaction de Radio Grenouille autour de la semaine d'information autour de la santé mentale. Tous ces programmes sont bien évidemment à retrouver sur le www.radiogrenouille.com. Dernier volet de cette semaine autour de la SISM, on va l'appeler comme ça, ou la SISM, c'est selon. Avec mes invités, aujourd'hui nous allons revenir sur un colloque qui s'est tenu dans le cadre de cette semaine, qui s'est tenu à Marseille les 21 et 22 mars dernier. On va revenir sur ce colloque avec mes invités présents avec moi en studio et par téléphone. Cette année, lors de la semaine d'information sur la santé mentale à Marseille, avaient été choisis deux thèmes qui apparaissent aujourd'hui comme essentiels pour les personnes en situation de handicap psychique. Respectivement se loger et travailler. Alors en 2005, une loi pour l'égalité des droits et des chances a enfin reconnu l'existence d'un handicap psychique, c'est-à-dire a écrit que celui-ci, de ce fait, peut provoquer des difficultés sociales d'adaptation et d'intégration, des difficultés relationnelles ou encore professionnelles. Alors dans ce colloque qui s'est tenu cette semaine, ici à Marseille, des expériences ont été évoquées et au-delà du logement lui-même et des difficultés d'y accéder, c'est la question de l'accompagnement qui a été quand même au cœur du débat. Avoir un logement applique des droits, des devoirs et pour certains, un véritable réapprentissage de la vie au quotidien qui va être nécessaire. Autour de moi, dans studio pour en discuter de tout ça, de ces questions, se loger et travailler dans le cadre pour des personnes atteintes de handicap psychique. Autour de moi, j'ai le plaisir d'accueillir Jonathan et Amandine du CMP Saint-Barnabé. Bonjour à tous les deux.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Ils sont un peu stressés, mais tout va bien se passer. Il y a beaucoup de monde dans le studio. Le CMP Saint-Barnabé, qui, on en parlera, vous, de l'expérience des expériences des appartements associatifs que vous menez en parallèle de vos activités d'infirmier diplômé d'État à tous les deux. Et juste à côté de moi également, Roxane et Amel. Bonjour à toutes les deux.
Bonjour.
Respectivement éducatrice spécialisée et éducatrice technique au sein de l'atelier thérapeutique Belle de Mai. C'est bien ça.
C'est ça.
J'ai pas fait d'erreur. L'atelier thérapeutique de la Belle de Mai est une structure de soins ambulatoires rattachée au centre hospitalier Édouard Toulouse et vous accueillez depuis votre création en 91 des personnes en souffrance psychologique orientées par les différents médecins psychiatres du centre hospitalier pour un accompagnement visant une remobilisation, une redynamisation par des activités de travail. Voilà, c'est bien ça. On a le même texte alors, c'est bon. Par téléphone avec nous, nous avons le plaisir aussi d'accueillir la sociologue Emmanuelle Elliot qui est avec nous, normalement. Bonjour.
Oui, je suis là, bonjour.
Bonjour Emmanuelle, vous êtes également intervenu dans le cadre de ce colloque organisé dans le cadre de cette semaine d'information sur la santé mentale. Vous êtes sociologue et vous participez à la plateforme Incita, plateforme de soutien à l'activité du tissu associatif, ici basé même à Marseille, à l'attention du tissu associatif, je l'ai dit, des collectivités territoriales et des acteurs privés à travers des activités de conseil, etc. Et à ce titre, j'imagine, et vous m'arrêtez si je me trompe, vous avez été l'auteur d'un rapport paru en 2015 autour justement de la réinsertion professionnelle. C'est bien ça ?
Voilà, oui.
C'est merveilleux.
Réinsertion professionnelle des personnes en situation de trouble psychique.
Alors, première question, petit tour de table, peut-être un retour sur ce colloque, sur ces deux journées qui se sont tenues ici à Marseille, parce qu'il y a eu beaucoup de choses, il y a énormément de choses qui ont été dites. Personnellement, j'assistais à une des deux journées, et pour les non-professionnels de santé, c'était assez technique, même j'imagine aussi pour vous. Peut-être un retour, petit tour de table, justement, sur ce que vous avez pu défendre, présenter, voir ce que vous avez pu également découvrir des autres cas, des autres structures que vous avez pu rencontrer lors de ces journées. Qui commence ?
Alors
Roxane. Roxane, atelier thérapeutique Belle de Mai. On t'écoute.
Voilà, donc c'est vrai que pour nous d'assister à la SISM, c'est un moyen aussi de faire découvrir notre structure et de faire découvrir comment est-ce qu'on travaille avec les personnes. C'est aussi d'avoir un panel comme ça de professionnels, de se rencontrer déjà, et puis de voir toutes les actions qui sont menées et de réfléchir à comment les mettre en lien pour accompagner au mieux quand même les personnes. Ouais. Voilà. À travers de ces deux journées, on se rend compte justement que cette rencontre n'est pas si simple finalement. Nous, on travaille donc dans l'insertion professionnelle et on voit que chaque intervenant parle de sa structure avec un prisme différent par rapport à l'insertion professionnelle. Certains passent par le logement dans un premier temps, d'autres, nous, c'est la fonction hospitalière, donc c'est le soin. D'autres, de la mise directement au travail. Voilà, on a tous une identité qui nous est propre et c'est ça qui est intéressant à découvrir.
Amel ?
Oui, donc c'est une question qui est, on va dire, en discussion, en débat. C'est pas mis encore en corrélation, comme elle a dit Roxane. Chacun est dans sa structure, accompagne des personnes en souffrance psychique, mais il n'y a pas encore cette mise en lien entre les structures pour établir des plateformes d'orientation, d'accompagner au mieux les personnes. Et donc ça, c'est des réseaux qu'il faut tisser entre professionnels. Et voilà, qui sont en train de naître et qui ne sont pas encore effectives, on va dire. Mais c'est un début et on espère que ça va donner son fruit. Et comme ça, on pourra créer des possibles, je dis bien des possibles, pour les personnes accueillies et accompagnées.
En clair, cette semaine d'information est aussi une semaine de mise en réseau aussi. Et saluons d'ailleurs, je ne les ai pas salué, l'action de l'association Arpsidemio, qui est l'organisation de tout ça et qu'on salue. Du côté du CMP Saint-Barnabé, alors, qui oui. Silence Amandine.
Et effectivement, c'était intéressant de voir le différent panel qui est proposé par différentes structures. Après, ce n'est pas toujours évident de se corréler parce que la psychiatrie, c'est sectorisé et donc c'est regroupé en fonction de secteurs, donc d'hôpitaux hein, qui s'occupent de différents secteurs. Et c'est déjà pas évident parfois de travailler au sein d'un même secteur, voire d'un même hôpital, avec les différentes possibilités d'accompagnement aux patients. Donc c'est vrai qu'au niveau de Marseille et des environs, c'est encore plus difficile de recouper les différentes structures qui sont intersectorielles. Il y en a certaines qui appartiennent, comme par exemple pour les appartements associatifs. Pour nous, c'est la possibilité d'intégrer l'association de Revivre Cailleul se fait par le biais du centre hospitalier Valvert. L'usager, le patient, est en parcours de soins au sein de l'hôpital Valvert et pourra intégrer les appartements associatifs selon différents critères, uniquement par ce biais-là. C'est vrai que c'est pas ouvert au secteur.
On va revenir un peu plus tard dans l'émission justement sur l'expérience que vous menez avec votre association, Jonathan peut-être.
Oui, c'est vrai que il a été abordé de beaucoup de choses pendant ce colloque, pendant cette sisme, et ça nous a permis de voir qu'il y avait d'autres structures aussi qui présentaient des appartements associatifs. Au sein notamment d'Édouard Toulouse, ce genre de là. Mais c'est vrai que nous, on a notre vocation en tant qu'association et que nous dépendons, c'est vrai, de tout ce qui est l'hôpital Valvert. C'est vrai que nous, on avait besoin de faire connaître aussi notre structure et de dire qu'il y avait effectivement aussi sur l'hôpital Valvert une association qui s'occupait aussi de d'appartements associatifs.
Et discuter un peu des différents modèles comme ça voilà. que vous défendez. Emmanuel Elio, même question pour vous. Et j'ai l'impression, en ayant parcouru quand même ce rapport que je rappelle, vous avez signé en 2015, c'est peu ou prou la question de la mise en relation de l'activité de toutes ces différentes structures et leur mise en relation est quand même compliquée à différentes échelles d'ailleurs.
Oui, en fait, c'est la chose qui est à travailler, effectivement, mais malgré tout, il y a des espaces de mise en relation qui sont même, je dirais, assez exemplaires de la part des différents acteurs qui travaillent à cette question de l'insertion professionnelle des personnes en situation de troubles psychiques et qui, d'ailleurs, appartiennent non seulement comme il le disait, à des espaces qui sont sectorisés à l'intérieur même du champ psychiatrique, du fait de la sectorisation par hôpitaux, etc., mais aussi parce que il y a des acteurs du champ de l'insertion professionnelle ou des acteurs du champ médico-social qui vont être amenés à collaborer avec des acteurs du champ de l'accompagnement, du soin, et c'est toute cette interconnaissance et puis ces frontières, on va dire, sectorielles qui sont difficiles à dépasser, et malgré cela, on voit qu'à Marseille, les différents acteurs sont capables eux-mêmes de se mettre en relation et de travailler. Donc c'est le cas à travers le réseau Synapse, donc qui est issu d'une volonté des propres personnes qui sont confrontées aux difficultés d'accompagnement à l'insertion professionnelle, qui ont décidé de travailler ensemble, qui ont décidé de créer un espace de coordination de leur plein gré, on va dire, et qui commencent effectivement à travailler. On sait que c'est très long dans l'histoire du champ de la santé mentale à Marseille. On a vu que sur le logement et sur l'accompagnement au logement et l'accès au logement des personnes en situation de troubles psychiques, c'est des actions politiques longues qui permettent petit à petit d'obtenir des résultats. Donc ça, c'est en route en ce moment sur le point de l'insertion professionnelle. Et c'est vrai que ça mériterait un soutien institutionnel clair, puisque finalement, quelque chose qui est plus du domaine, on va dire, du politique, qui est l'organisation, la structuration de ces espaces-là pour arriver à donner une ligne de conduite, et ben on voit que ce travail est fait par les associations eux-mêmes et qu'ils peuvent pas tout porter au bout d'un moment, et qu'il faudrait qu'il y ait un relais institutionnel pour justement les remercier de ce travail déjà établi en amont et puis les accompagner pour arriver à structurer au mieux leur volonté de collaboration.
Et justement, des initiatives comme ce colloque là qui s'est tenu cette semaine, on imagine que vous les voyez d'un regard un peu assez positif, j'imagine, Emmanuel Elio.
Oui, je pense qu'en fait, entre la mise à l'agenda politique, on va dire, d'une question qui remonte de la société civile ou des acteurs qui sont au quotidien avec les personnes en situation de souffrance psychique, entre justement cette mise en visibilité et l'action politique, il se passe toujours du temps. Et je pense qu'effectivement, c'est via ces colloques, via la reprise, la pédagogie autour de ces questions, que petit à petit, les choses se débloquent, et c'est en route à Marseille, ça se passe.
Roxane, de l'atelier thérapeutique, voulait réagir.
Je voulais réagir concernant Synapse, puisque l'atelier thérapeutique fait partie de ce réseau. Et enfin, je suis tout à fait d'accord. En fait, effectivement, on est un réseau de professionnels. Alors, avec tous des fonctions différentes. Hein. Il y a des directeurs des ZAT, des agences intérim à caractère
les ZAT,
social.
Si vous pouvez revenir.
Ah oui, alors ZAT, c'est des lieux de travail, du coup, pour les personnes handicapées. Donc, il y a une reconnaissance de travailleurs handicapés. Et qui sont des lieux de travail avec de la production. Il y a 35 heures de travail par semaine, mais dans un cadre sécurisant, où il y a une prise en charge du soin aussi, une prise en compte de la fragilité de la personne. Et du coup, chaque atelier sont menés par des moniteurs, et où la question soignante est très présente. Donc sur ces réseaux, c'est vrai que on essaye de réfléchir justement à des passerelles qui pourraient être possibles, en tout cas de rendre plus souples les cadres d'intervention dans lesquels nous sommes tous. Et effectivement, par rapport à la politique, c'est sûr que les personnes qu'on accompagne sont tous soumis en termes de d'insertion professionnelle à la décision de la maison départementale des personnes handicapées. Mais entre nous, il y a en tout cas une volonté d'assouplir toutes ces démarches, d'essayer de mutualiser un petit peu nos compétences, d'essayer de faire des passages, par exemple pour les ZAT, donc ce lieu de travail pour personnes handicapées, pour être un lieu d'évaluation des compétences de travail et un lieu de passage vers un retour pour le milieu ordinaire.
Qui s'inscrit dans un parcours,
exactement. L'intérêt aussi du réseau Synapse, c'est d'éviter des ruptures de parcours des personnes, c'est-à-dire d'essayer de mettre des situations sur la table entre nous, entre professionnels, et d'essayer de débloquer un petit peu ces situations, de trouver des solutions entre nous, parce qu'on a tous aussi un réseau particulier, donc de mutualiser tout ça. Voilà, nos compétences, nos outils, notre réseau, notre matériel. Réel aussi, pourquoi pas, et voilà.
Une réaction peut-être autour de la table ?
Oui, c'est vrai qu'enfin, nous on a effectivement recours aux ESAT pour favoriser un retour à la vie professionnelle pour certains patients quand c'est possible. Et effectivement, toutes ces structures qui sont là pour consolider un petit peu, pour permettre après peut-être un retour à un logement, à une resocialisation finalement, sont vraiment très très importantes. C'est vrai qu'on te rejoint sur le fait qu'il faille mutualiser un petit peu toutes les, toutes les structures.
Amel.
Oui, donc pour accompagner ces personnes et assouplir ces passerelles, des fois la personne elle a besoin de faire juste un stage de découverte dans un ESAT. Peut-être que c'est pas là qu'elle se verrait travailler. Donc assouplir les passerelles entre les professionnels, c'est aussi avoir une structure associative qui permet à la personne d'aller en stage de 15 jours et de voir de l'intérieur si le travail en ESAT, par exemple, ça lui convient ou pas. C'est des choses très simples, des fois, qui permettent de consolider les parcours et d'affiner les parcours avec les personnes eux-mêmes. Et voilà, donc c'est ce type d'outils qui nous arrangent et qui sont en train de se mettre en place.
Emmanuel Elio, dans votre rapport, justement, vous vous posez toutes ces questions-là. Et quelle forme pourrait-on imaginer, justement, entre toutes ces différentes structures, quelle forme pourrait-on imaginer à partir de cet existant, de toutes ces structures qui veulent et qui commencent quand même à travailler ensemble? On est vraiment que sur les réseaux ou vraiment là, c'est l'institution qui doit vraiment trancher là-dedans?
Non, je pense que c'est pas l'institution qui doit trancher là. Non, le problème en fait auquel sont confrontés les gens qui font, comme elle vous le disait juste avant, enfin, je pense que c'était l'atelier thérapeutique de la Belle de Mai, c'est qu'elles ont besoin de souplesse pour accompagner, c'est-à-dire qu'elles ont besoin de pouvoir envoyer dans un ESAT quelqu'un 15 jours pour essayer. Et en fait, on a affaire à quelque chose d'assez rigide parce que c'est normal, les administrations sont ce qu'elles sont. Et par conséquent, quand il y a tellement peu de places en ESAT à Marseille, et quand on obtient une place dans un ESAT, on n'obtient pas une place dans un ESAT pour juste essayer 15 jours. C'est déjà une chance telle, entre guillemets, donnée à des personnes qui ont pu attendre un an ou un an et demi une telle décision, que finalement, organiser de la souplesse là-dedans, c'est assez compliqué. Ce qu'on a vu aussi via le rapport, c'est que comme il n'y a pas beaucoup d'ESAT et comme finalement la mobilité entre les différentes structures est assez compliquée, les places restent des places assez figées. Quand on obtient une place dans un ESAT, on y reste. Et puis aussi, ce qui a été en tout cas assez répété pendant qu'on faisait cette étude, c'est que ce qui bloque en réalité, c'est que comme il y a les ESAT ou les entreprises adaptées, c'est des structures qui sont faites d'une telle manière que qui sont adaptées au handicap psychique ou en tout cas adaptées au handicap en général. Et il y a beaucoup de difficultés à créer une passerelle en fait entre ces ESAT et puis le milieu ordinaire. Pour tous les acteurs qui ont été rencontrés, ils ont des difficultés à trouver directement de l'emploi pour ces personnes-là dans ce qu'on appelle le milieu ordinaire, en fait, c'est dans le milieu du travail, quoi. Et donc, c'est ces passerelles-là qui sont à travailler. Donc, je pense que, voilà, si on devait trier un petit peu, il y a comment est-ce que le passage dans le milieu ordinaire peut être facilité. Et là, il y a tout un travail avec les acteurs de l'insertion professionnelle, mais pur, on va dire, ceux qui travaillent à ces questions-là hors handicap ou hors handicap psychique, qui doit être travaillé. Souvent, les acteurs disent qu'ils ont besoin de gens qui viennent de ce milieu-là directement, qu'ils ont besoin de plus de contacts avec les entreprises, qu'ils ont besoin d'être aidés dans ce champ qui n'est pas de leur domaine en particulier. Et puis, quand je dis soutien institutionnel, c'est tout simplement, non pas que les associations n'ont pas les compétences pour faire ce travail-là de mise en réseau, de coordination, mais il faut encore faut-il avoir l'argent, et encore faut-il avoir le temps, et encore faut-il avoir la capacité d'employer une personne qui se consacre spécifiquement à ces tâches-là, parce qu'en fait on peut pas tout faire dans ce genre de structure. Voilà.
Tout le monde approuve autour de la table en studio, et Amel voulait rebondir.
Oui, ce que j'avais envie de dire aussi, c'est que il faut les trois, quoi. Il faut que les institutions politiques puissent mettre en place des choses qui soient concrètes, des ouvertures de places, des actes supplémentaires, que Pôle emploi et Cap emploi soient plus impliqués dans l'accompagnement. Il faut communiquer aussi. Mmh. Il faut que les employeurs eux-mêmes soient sensibilisés à cette question. Et ça, c'est à travers des journées comme on a fait, là, ou des journées spécifiques autour de cette question, en faisant peut-être des partenariats avec, je ne sais pas moi si ça existe, des chambres de commerce ou des chambres de... je ne sais pas, quelles institutions on pourrait impliquer pour sensibiliser sur cette question. Et la mise en réseau, il faut les trois, il faut aller sur les trois fronts.
Il faut avoir l'énergie pour aller sur ces trois fronts.
Voilà,
aussi.
Et souvent, c'est vrai qu'on passe par les structures associatives qui nous donnent cette souplesse. Nous, pour notre cas, c'est l'association Arpsidemio. Et pour le cas des collègues qui travaillent sur la question du logement, c'est... comment elle s'appelle, votre association ?
Nous, c'est Revivre au Cailleul, mais
voilà.
C'est vrai que c'est vraiment...
C'est sur le logement.
Voilà, c'est plus axé sur le logement que le travail. Enfin, ça s'est transformé au fur et à mesure.
On va parler du concret, justement, Amel. On va parler du concret juste après une petite respiration musicale avec un titre tout tranquille qui va très bien avec le magnifique temps qu'il fait dehors, ici même, à Marseille. C'est Wilco, If I Ever Was a Child, sur Radio Grenouille. Allez, on reprend le micro, on va vite parce qu'on a pris beaucoup de temps déjà sur Radio Grenouille à discuter avec mes invités autour de la table. Je rappelle que nous discutons, un petit retour sur un colloque qui s'est tenu cette semaine à Marseille, un colloque organisé par l'association Arpsidemio dans le cadre de la semaine d'information sur la santé mentale, et on discutait vraiment autour de la question de la réinsertion professionnelle par le logement, par le travail, des personnes souffrant d'handicap psychique. Autour de la table avec moi, mes invités Amandine et Jonathan du CMP Saint-Barnabé, que l'on va évoquer tout de suite avec leur expérience d'appartement associatif, et également Roxane et Amel de l'atelier thérapeutique Belle de Mai. Également, on va raconter un peu ce que vous faites, faire un peu de promotion autour de ces expériences qui sont, ma foi, fort intéressantes et que j'ai découvert pendant ce colloque. Et toujours, j'imagine, par téléphone, la sociologue Emmanuelle Elliot qui est toujours avec nous.
Je suis toujours avec vous.
C'est merveilleux. Si vous voulez réagir, n'hésitez pas à nous interpeller, Emmanuel. Alors, le CMP Saint-Barnabé.
Voilà.
Amandine, ils ont toute une petite présentation.
Voilà.
Mais je trouvais, quand je vous ai rencontré justement durant ce colloque à la CIS, j'ai trouvé vraiment cette expérience d'appartement associatif et la façon dont également vous la portez. Je rappelle que vous êtes tous les deux infirmiers. J'ai trouvé très, très, très intéressante et très militante. Allez-y.
Après, on est là ici tous les deux, mais on est loin d'être tout seul. Il y a toute une équipe. On est plusieurs infirmiers, une assistante sociale, une secrétaire, puis les médecins qui n'ont pas part dans l'association, mais qui sont là avec nous, à nous soutenir. Et bon, d'ailleurs, on leur passe le bonjour. En fait, le CMP Saint-Barnabé, c'est une structure de l'hôpital Valvert, une structure extra-hospitalière où on travaille. Et en fait, l'association, c'est quelque chose de très différent. Nous, on intervient dans cette association, enfin, pour le CMP, dans le cadre de la sectorisation qu'on évoquait tout à l'heure. Mais l'association, elle est indépendante, en fait. Hein, elle a été créée il y a plus de 45 ans. En fait, pour permettre l'accès au logement à des patients souvent isolés, ayant un parcours de soins en psychiatrie, hein, bien évidemment, souvent isolés, avec peu de ressources, mais en capacité d'avoir une activité professionnelle en milieu ordinaire ou protégé, donc les ESAT, dont on parlait tout à l'heure. Et effectivement, petit à petit, avec ce qu'on disait, c'était que le contexte du travail était très compliqué, les passerelles se sont un petit peu réduites et du coup, on a dû changer un petit peu notre cap, c'est-à-dire qu'on est moins parti sur le retour au travail, mais plus vraiment sur la question du logement, parce qu'aussi on a eu des patients...
De l'accès au logement.
De l'accès au logement, puisqu'on a eu des patients aussi avec des parcours de vie, des difficultés psychiques plus importantes, qui faisaient que peut-être la vraie question, c'était la question du logement et pas forcément tout de suite la question du travail.
Votre association aujourd'hui, Jonathan, peut-être combien de logements, combien de c'est des colocations,
comment... Voilà, en fait, on dispose de deux logements que l'on loue donc à une société HLM. Hein, qui se situe, donc les logements se situent sur les HLM des Cayolles. Hein, donc c'est pour ça que notre association s'appelle Revivre aux Cayolles. Donc on a deux appartements et dans ces appartements nous proposons des colocations de trois personnes par appartement et c'est vrai qu'on a une certaine souplesse vis-à-vis de justement de l'institution par rapport à tout ça. On demande évidemment à c'est des personnes qui sont déjà à la base qui sont hospitalisées et qui sont donc indiquées de façon médicale par les médecins qui s'occupent de ces personnes. Elle nous propose donc des personnes pour qui un accès au logement est compliqué dans un premier temps, de vivre seul dans un premier temps. Et nous, ce qu'on fait au sein de l'association, c'est que la colocation est notre intervention à raison d'une fois par semaine, voire plus hein, s'il y a nécessité. Nous, on amène les personnes à pouvoir accéder à un logement, au final, un logement individuel, c'est toujours la finalité. C'est pour ça qu'on propose toujours des bails, on sous-loue donc hein, à ces personnes-là, et on propose toujours des bails maximum d'une durée de 2 ans. Comme ça, on se donne, et pour eux et pour nous, une durée de 2 ans pour les amener justement à pouvoir bénéficier d'un logement individuel. Évidemment, avant l'entrée dans les appartements associatifs, on demande toujours de faire qu'il y ait déjà une demande de logement HLM qui est déjà engagée, puisqu'on sait que l'attribution d'un logement HLM ou d'un logement individuel peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Donc c'est vrai qu'en parallèle, on se renseigne aussi auprès des services qui nous les adressent. Que de s'assurer de ça et on s'assure aussi, nous, une fois par semaine, de la continuité de tout ça, de la continuité pour accéder à un logement individuel.
Très rapidement, avant d'évoquer justement l'expérience de l'atelier thérapeutique, le fait de refaire, de se placer en intermédiaire entre un bailleur social et des usagers du coup de l'hôpital, la philosophie que vous mettez dedans est vraiment la réhabilitation citoyenne, on va dire une réinsertion. C'est aussi pour ça que vous avez, j'imagine, que cette expérience, cette association qui existe depuis longtemps, hein. Enfin l'expérience existe depuis une cinquantaine d'années déjà.
Oui, voilà.
40, merci. L'association s'appelle vraiment Revivre.
C'est ça, c'est une immersion en fait, c'est vraiment, ça permet une immersion dans la cité, avec tout ce que ça comporte, aller faire ses courses, gérer le quotidien, les papiers. Alors bien sûr, il y a tout un parcours de soins, enfin il y a des équipes soignantes qui sont là derrière, mais ça a vraiment pour vocation de restituer le sujet au centre du soin et qu'il soit acteur de sa vie et mais de pouvoir se réapproprier les choses, quoi. Et vraiment, se poser dans un logement pendant 2 ans, ça permet de pouvoir après accéder. Enfin, quasiment tous les patients qui sont passés par les appartements associatifs ont pu accéder à un logement seul par la suite.
Très rapidement, on peut vous retrouver facilement, j'imagine, sur les internets. Alors, pour entrer en contact avec vous.
C'est par le CMP Saint-Barnabé. Les coordonnées sont ceux du centre hospitalier Valvert. Après, effectivement, nous, on intervient. Enfin, l'association fait partie de la sectorisation de Valvert. Donc, c'est pour vraiment des patients qui ont un parcours de soins au sein de l'hôpital Valvert.
D'accord. Oui. Merci en tous les cas d'avoir accepté cette invitation. Très rapidement, c'est vrai que le temps presse, l'aiguille court, parce qu'il y a plein de choses qui vont se passer encore sur Radio Grenouille aujourd'hui. L'atelier thérapeutique Belle de Mai.
Ben, nous, pareil, hein, on n'est pas toutes seules, Roxane et moi. On est toute une équipe. On a une autre collègue qui est éducatrice. On a une psychologue. On a un médecin psychiatre, une assistante sociale et un infirmier qui sont référents des personnes qui sont accueillies.
Là, comme je l'ai dit en introduction de l'émission, on est sur de la réinsertion. Également, je vous ai vu approuver sur la réinsertion citoyenne, mais là, par le travail.
Alors pour le travail, nous, les personnes qui sont accueillies chez nous, elles viennent par indication médicale et elles viennent, si elles sont éloignées de l'emploi, donc elles viennent sur l'action de la remobilisation par l'activité de travail en espace vert, on va jardiner ensemble, on apprend à faire des choses dans la cité, c'est-à-dire qu'on a 2 terrains d'application qui sont ici à la Belle de Mai, à la Friche même, là où on est, et dans le quartier aussi. On a d'autres terrains où on apprend les techniques, on est ensemble, on reprend confiance en soi, et nous on est là derrière l'équipe à soutenir tout le geste, les réapprentissages de la vie, et les soutenir dans ce parcours. Ça, c'est des personnes qui sont vraiment éloignées de l'emploi, et elles ont besoin de cette étape pour progresser et pour aller plus loin. Pour les personnes qui ont envie qui ont un désir d'aller dans l'emploi directement, on les accompagne aussi.
D'apprendre un métier.
À ce moment-là, on se sert des dispositifs qui sont existants. On leur explique qu'est-ce qui est possible pour eux, qu'est-ce qui existe. Et aussi de les accompagner dans leur projet. Soit par une formation qualifiante, soit par un emploi direct, quand c'est possible pour eux. Voilà.
Roxane ?
Voilà, donc c'est vrai que nos accompagnements, on reste quand même une structure de soins, avant tout. Donc, les personnes, dans un premier temps, on va étudier leurs demandes. Et c'est sûr qu'on a la chance quand même d'avoir les activités d'espace vert qui représentent quand même une évaluation, et pour eux et pour nous, de leur capacité de travail. Même si on n'en fera pas des jardiniers, voilà, en tout cas, c'est un outil de travail.
De remobilisation, comme vous le dites.
Et puis après, d'orientation, dont on peut se servir en tout cas de ça, de ce passage vers l'espace vert pour dire, bon bah là, il faut peut-être travailler le rythme, là, il faut travailler le lien à l'autre, voilà, des choses comme ça, ou à l'ordre, ou à, plusieurs trucs. Et puis surtout, à la demande, nous, tout le travail qu'on fait aussi avec eux, c'est la différence entre milieu ordinaire, milieu protégé. Voilà, ce passage n'est pas forcément facile. Plusieurs personnes ont déjà travaillé avant la maladie et pour eux, c'est délicat aussi d'accepter le milieu protégé. Voilà.
Amel, très rapidement, parce qu'on va se faire taper sur les doigts par la réalisation.
Oui, le travail ne va pas sans le logement. J'ai envie de dire que quand la personne, elle est logée, elle a un logement individuel et ça se passe bien, c'est là qu'elle a envie de travailler. Donc les projets ne sont pas séparés. C'est toute une réhabilitation dans la cité. C'est ça que j'ai envie de rajouter. Donc les équipes, elles ont tout intérêt à travailler ensemble pour accompagner au mieux les personnes.
Merci à tous les quatre. Désolé, le temps a pressé pour présenter un peu les différentes activités, vos différents positionnements qui sont très intéressants, je l'ai dit et je le redis. On mettra les liens vers vos différentes structures et vos différentes philosophies sur le site de Radio Grenouille, radiogrenouille.com, où seront également consignées toutes les références et toutes les émissions précédentes qu'on a organisées dans le cadre de cette semaine d'information autour de la santé mentale. Merci Amandine, Jonathan et Jonathan du CMP Saint-Barnabé. Merci Roxane et Amel de l'atelier thérapeutique Belle de Mai. Merci. Et merci Emmanuel Elio par téléphone, sociologue au sein de la plateforme Incita, qui sera également notifié. Ils font un travail passionnant. On mettra tout ça sur le site de Radio Grenouille. Merci Sébastien Gély, l'immense, le génie à la réalisation. Et moi, je vous dis à très vite sur les ondes de Grenouille. Ciao.